Pour un oui.
Pour un oui.
Pour un son.
Pour un son.
Pour un oui.
Pour un oui.
Pour un son.
Bertrand Bichot.
Alexandre Lemierre.
Notre invité a un physique impressionnant de par sa carrure et son charisme, son allure et son magnétisme. Voilà un personnage énigmatique, à l'élégance semblant innée, maniant les mots avec dévotion d'une distinction dans la diction qui fait dire à certains qu'il détiendrait un charme so-british. Et puis il y a sa voix, mélodieuse et douce, envoûtante, à l'écoute de laquelle on perçoit tout autant une profonde sagesse que ce qui ressemble étrangement à une éternelle jeunesse. Du haut de ses plus de 4 fois 20 ans, son chemin est à nul autre pareil. Sa filmographie d'un rare prestige donne le vertige. Il a tourné avec Orson Welles, François Truffaut, Michel Deville, Steven Spielberg, Louis Buñuel, Marguerite Duras, Louis Malle, Manuel de Oliveira, Claude Sautet, Jean Eustache, Claude Chabrol, Dino Rizzi, pour n'en citer que quelques-uns. Sur les planches, il a joué Ionesco, Beckett, Pirandello, Brecht, Anouilh, Perec, Shakespeare, Proust et actuellement Charles Péguy. Sur sa longue route, il n'a point fait de pause, n'optant jamais pour des chemins de traverse, mais profitant certainement du paysage et de ses images, des rencontres et des histoires qu'elles offrent. Tel un pèlerin, il a traversé son existence, s'y baladant, forgeant sans s'en rendre peut-être bien compte une sacrée carrière, à défaut d'une carrière dans le sacré. Mais savait-il réellement où cette vie le mènerait? Voici l'une des questions qui nous a donné envie de le rencontrer, lui qui, depuis l'enfance, se promène sur un chemin d'espérance. L'a-t-il par moments un peu perdu de vue, ou était-ce en toute conscience pour aujourd'hui encore plus intensément s'y consacrer?
Pour un oui,
oui.
Pour un oui,
pour un son.
Pour un son.
Alexandre Lemierre et Bertrand Bichot.
Bonjour à tous, bienvenue dans Pour un oui, pour un son, avec aujourd'hui Michael Lonsdale. Bonjour Michael Lonsdale.
Bonjour, bonjour, bonjour.
Comment allez-vous?
Nous t'allons bien.
Nous t'allons très bien.
Oui, 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 ça va, ça va.
Vous venez de sortir il y a quelques mois un livre, un beau livre, comme on dit, édité par Philippe Rey, qui s'appelle « Mes chemins d'espérance ». Il y est question de foi, on y retrouve des textes de nombreux auteurs, il y est question de spiritualité, de religion, d'espérance. Est-ce que ce sont ces valeurs aujourd'hui qui vous accompagnent, qui guident votre vie, votre quotidien?
Eh bien oui. En effet, le monde a besoin de poésie, le monde a besoin de rêve, le monde a besoin de beauté. Alors voilà, j'essaie de trouver quelque chose
qui apporte tout ça.
Qui apporte, oui, un peu, quand même, qui donne un peu de goût à la vie. Et spécialement spirituel, oui, oui. J'essaie de mettre en valeur des gens comme Sœur Emmanuelle, par exemple, qui a tellement de choses à faire connaître. Elle a demandé que ce soit publié qu'après sa mort. Mais c'est un exemple de vie hallucinant. Enfin, cette femme a atteint une espèce de liberté intérieure qui faisait qu'elle fonçait partout. Et même dans les petites choses, Robert Hossein l'avait invité dans un très bon restaurant un soir. Alors il s'attarde, etc. Puis elle regarde un peu autour. Puis elle dit, mais dis donc, les gens qui sont là, ils sont un peu friqués, non? Vous ne pouvez pas dire non. Oui, tu crois que je peux leur piquer un peu de fric? Écoute, tu fais comme tu veux. Elle se lève. Puis elle va à la table la plus proche. Pardon de vous déranger, excusez-moi. Sœur Emmanuelle, oh, ma sœur, je vous en prie, asseyez-vous. Quel honneur, quelle joie. Eh ben voilà, je suis venu pour vous piquer un peu d'argent d'entrée. Je ne faisais pas, pourriez-vous gentiment m'aider dans mes œuvres? Elle a
franche,
allait droit au but. Elle a fait toutes les tables, elle est partie avec 2000 euros. Rien ne l'arrêtait.
Dans votre livre, on retrouve des hommes d'église, mais aussi des poètes, des écrivains, des textes de, entre autres, Michel-Ange, Blaise Pascal, Léon Tolstoï, Paul Claudel, Rainer Maria Rilke, Max Jacob, Frère Luc. que vous avez interprété au cinéma, Martin Luther King. C'est ce sont des textes que vous, qui vous accompagnent depuis longtemps, ou certains, vous les avez redécouverts, peut-être découverts pour les publier.
Frère Luc, c'est depuis l'assassinat, quoi. Et qu'on a fait le film, là, Les Hommes et des Dieux. Donc c'était un grand honneur de jouer ce personnage complètement accompli dans ce que le Christ dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime.
Vous êtes certainement le comédien français à la filmographie la plus prestigieuse. Voici tout de suite une petite promenade sonore dans vos 60 ans de carrière au cinéma. Une balade obligatoirement parcellaire et très subjective.
Votre verre, vous attend, Jean-Pierre Macky.
Merci.
Est-ce que le cadre dans lequel nous vous recevons correspond un peu à celui de votre film, Les Snobs ?
Oui, ça correspond. Surtout cette tête de mort. Parce qu'elle joue un rôle dans mon film, pas en tant que cendrier, mais en tant que tête de mort, de vraie tête, une vraie tête. On a une tête de mort dans le film.
Moteur !
Voilà, c'est le grand honneur de ma vie, ça, d'avoir montré mes fesses.
C'est dégoûtant.
Je suis avec quatre messieurs.
Quatre messieurs ?
Nous pourrions peut-être les inviter.
50 les scapulaires.
Oh ben, pour Buñuel, on aurait fait n'importe quoi.
Ben voilà, vous savez tout. Je suis un cavaleur. Et rassurez-vous, vous risquez rien. Vous êtes pas de mon genre.
À la balade ! Bouge ton cul, FPD !
Ben je suis pas PD !
Qu'est-ce qu'il y a avec les PD ?
Comment qu'est-ce qu'il y a ? Rien ?
T'aimes pas ça, les PD ?
Si, beaucoup.
Je suis PD.
Depuis quand ?
Ça m'a pris récemment.
Et ça t'a pris comment ?
Par derrière.
Ah bah oui, forcément. Forcément.
Comment a-t-il pu s'enfuir ?
C'est pas de ce côté-là que vous trouverez le mobile du crime.
J'attends l'assassin ce soir.
D'accord.
Jusqu'à preuve du contraire, vous êtes considéré comme coupable.
Je ne suis pas coupable. D'ailleurs, comment peut-on dire d'un homme qu'il est coupable ? Nous ne sommes tous que des hommes ici, les uns comme les autres.
Tous les coupables disent la même chose.
Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse.
Thomas, tu retrouveras ton bureau, l'amandin tes élèves, le sueur ses pinceaux, Martin ses éprouvettes, et nous tous, la grisaille de la ville.
C'est inadmissible.
Masala in corpore sano.
Est-ce que je peux retourner en gymnastique, mon père ?
Bon, alors vous êtes marié ?
Monsieur Thomas.
Merveilleusement marié, oui, à une femme supérieure, ça je dois le dire. Et aucun problème de ce côté-là. Et je me porte très bien.
Sean Connery. F. Murray Abraham. The Name of the Rose. A story of unholy murder.
César, du meilleur acteur dans un second rôle, est attribué à Michael Lonsdale.
C'est le premier César dans l'immense carrière de Michael Lonsdale, qui avait déjà été nommé dans cette catégorie pour Nelly et Monsieur Arnaud en 96.
Jacqueline m'a dit que vous n'habitiez plus. Non, parce que si vous avez besoin d'être dépanné, je...
Merci, j'ai trouvé.
Non, c'est bien.
C'est presque sec. Alors, il ne faudra pas remettre de pansement, c'est pas la peine. Et puis, pas la mettre au soleil, surtout pas, ça c'est dangereux. La réputation du diable entre les femmes, le jeu, il n'a pas un sou vaillant.
Et en épousant sa petite fille, le fleuron de l'aristocratie française, non ?
Désolated, Mr. Paul.
Heartbroken, Mr. Drax.
Aha, James Bond, ladies and gentlemen, this is Mr. Bond. Et je jouais donc le Dr. Drax. My name is Dr. Drax.
Nous avons 11 noms de Palestiniens. Chacun d'eux est impliqué dans Munich. Vous allez les tuer, un par un.
My name is Dr. Drax.
Des souvenirs, j'imagine, à l'écoute de ces films. Quelques extraits. On a écouté du Jean-Pierre Mocky, pardon, Snob, Le fantôme de la liberté.
Oui.
Vous montriez vos fesses, vous le racontiez.
Mais oui, quel honneur.
De Louis Buñuel, vous étiez un prêtre SM.
Oui, 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 oui.
Voilà. La mariée était en noir de Truffaut, les acteurs d'oublier, le mystère de la chambre jaune de Bruno Podalydès, le procès d'Orson Welles, les copains d'Yves Robert, le souffle-cœur, lui mal, personne ne m'aime de Liliane de Kermadec, au nom de la rose, Jean-Jacques Hano, Moonraker, le James Bond, Nelly et Monsieur Arnaud, Claude Sautet, des hommes et des dieux, bien sûr, de Xavier Beauvois, une vieille maîtresse de Catherine Breillat et Munich de Steven Spielberg. Plus de 240 films, j'ai compté.
Ah bon?
Oui. Ça nous fait quand même un film tous les trois mois pendant 60 ans.
Ah oui. Ah
c'est pas mal.
Oui, oui, oui. Mais il y a les courts-métrages dedans?
Oui, quand même.
Quand même. Parce que...
Il y a la télé, les courts-métrages et les longs-métrages. Et puis, on ne parle pas du théâtre parallèlement à tout ça. Vous avez travaillé quand même beaucoup, beaucoup.
Oui, j'ai plus joué d'ailleurs au théâtre dans le travail. J'ai fait plus de travail parce que c'est tous les jours.
Oui.
Tandis que les films, bon, des fois c'est un mois, deux mois, trois mois. Ou alors James Bond, six mois. Le nom de la rose, six mois aussi.
Michael Lonzel, vous êtes né à Paris, vous avez grandi à Jersey, à Londres, puis au Maroc. Du coup, est-ce que vous vous sentez plutôt sans racines ou déraciné?
Non, très anglais. Parce que je n'ai parlé que l'anglais jusqu'à l'âge de 10 ans. Et c'est en allant au Maroc pour six mois... Et nous sommes restés 10 ans. Là, il a fallu apprendre le français, oui. Alors après, quand mes parents se sont séparés, je suis venu dans la famille française. Mais j'aime beaucoup l'Angleterre, j'aime beaucoup jouer en anglais. La première fois que j'ai joué, c'était avec Orson Welles, oui. Ah, ça venait du fond, là. Comme un vieil ami qui se réveille en vous. C'est une très belle langue pour jouer, là, l'anglais.
D'ailleurs, vos premiers films... que vous avez vu au cinéma, je crois que c'était à Casablanca, c'était des films américains qui étaient diffusés pour les troupes américaines.
Oui, tous les jours j'allais au cinéma, j'allais pas à l'école. Et j'ai absolument des souvenirs inoubliables. Quand j'ai vu Les raisins de la colère là, de John Ford avec Henry Fonda, tout ça, ça me faisait rêver, j'étais ému. Ah oui, je me pleurais, moi. J'étais très, très émotif. Et oui, et puis les acteurs américains, merveilleux, merveilleux.
Donc une culture surtout américaine, au départ en tout cas, cinématographiquement.
Mmh.
Ce sont surtout des films américains que vous avez découvert le cinéma.
Eh ben oui, parce qu'il n'y avait rien d'autre. La France, on était coupé de la France. Alors après, est arrivé à la Libération, puis tout d'un coup, on a vu Les Enfants du Paradis, enfin.
J'ai lu que vous aviez travaillé à 12 ans sur... vous animiez une émission de radio... pour les enfants sur Radio Maroc.
Oui, exactement.
Vous aviez déjà envie de jouer avec votre voix?
Ben écoutez, non. Je suis entré là-dedans. Un copain m'a dit, tu sais, on cherche des jeunes. J'ai répondu oui, ben volontiers. Et puis en effet, c'est... alors on enregistrait toutes sortes de choses. Et mon premier rôle, c'était à Tchoum dans la Blanche-Neige et les Sept. Oui, c'était après la petite sirène d'Anderson, enfin, de très beaux textes. Hein. Et puis alors, ce qui était formidable, c'est qu'après, on jouait pendant 1h30 dans le studio. Et j'étais fou, j'aurais pas raté ça pour un empire.
Et puis à 16 ans, vous êtes de retour en France, vous l'avez dit, à ce moment-là, vous découvrez
pas
le théâtre.
Pas retour en France, non, j'avais pas vécu en France.
Vous êtes né juste en France.
Je suis né, puis c'est rapidement donc, exporté dans les îles britanniques. Oui.
Donc vous découvrez la France, et grâce à Roger Blin, vous découvrez le théâtre.
Oui.
Il a été entre autres, bon, il était comédien, il était metteur en scène, il était patron de la Gaîté Montparnasse à la fin des années 40.
Et oui, alors je suis allé dans ce théâtre, j'avais acheté mes places et tout, au balcon. Et puis en arrivant, on me dit, ben non, vous pouvez vous mettre en bas. J'ai dit, mais pourquoi j'ai payé? Ben oui, parce qu'il n'y avait pas assez de monde. Et ça a été la révélation, tout d'un coup. Parce que j'avais vu, nous avions une amie assez riche qui nous invitait souvent au théâtre. Mais c'était des pièces de boulevard, quoi. Et là, tout d'un coup, je voyais quelque chose de tout à fait magnifique, inoubliable.
On va continuer à parler ensemble, Michael Lonsdale, dans quelques instants. On marque une pause musicale. Pour le moment, on va écouter Stéphane Eicher avec « Mille vies » sur la première.
Aurais-je le mensonge à la bouche, la main droite posée sur le cœur, serais-je habillé sous la douche, ivre mort ou glacé de peur? Serais-je en train de rendre l'âme avec une parfaite inconnue? serais-je assis seul à ma table dans la pénombre à demi nu? Pourrais-je te regarder en face et te dire j'ai fait ce que j'ai pu? Pourrais-je seulement briser la glace et toucher tes joues honteux? Serais-je mieux pour demander grâce? Pourrais-je ravaler mon orgueil? Mon étouffé-je se place et peut savoir ce qu'on recueille. Mille vies ne sont pas suffisantes. Mille hommes ne sont pas assez forts. Ne viens pas savonner la pente. Ne viens pas compliquer mon sort. Mille vies ne sont pas suffisantes. Mille hommes ne sont pas assez forts. Reviens si je suis à ma langue. Ne reviens pas si je m'endors. Ami à ma table, quelqu'un tu n'aimeras pas. Serais-je encore une fois coupable de faiblesse, de je ne sais quoi? Serais-je dans mon lit comme un ange, ruminant des mauvaises pensées, pressant la peau d'une ombre devant mes yeux pour m'éclairer? Mille vies ne sont pas suffisantes. Mille hommes ne sont pas assez forts. Ne viens pas savonner la pente. Ne viens pas compliquer mon sort. Mille vies ne sont pas suffisantes. Mille hommes ne sont pas assez forts. Reviens si je suis à ma lampe. Ne reviens pas si je m'endors. Ta bienveillance, où m'enverras-tu pas le fond? Plus j'y réfléchis, plus je pense, plus je n'ai pas compris la leçon. Comment je puisse saluer ton âme? Autrefois, y as-tu songé? Toi et ton cœur invulnérable, toi et ta foutue vérité. Ne sont pas assez forts. Ne viens pas savonner la pente. Ne viens pas compliquer mon sort. Mille vies ne sont pas suffisantes. Mille hommes ne sont pas assez forts. Reviens si je suis à ma langue. Ne reviens pas si je m'endors.
Pour un son.
Oui, c'est Michael Lonsdal pour un oui, pour un son.
Heureux ceux qui sont morts dans les grandes batailles, couchés dessus le sol à la face de Dieu. Heureux ceux qui sont morts sur un dernier haut lieu parmi tout l'appareil des grandes funérailles.
Michael Lonsdal, l'autre personne qui a compté dans votre parcours, c'est Tania Balachova. Vous avez pris des cours de théâtre avec elle. Cette même année, il y avait Delphine Seyrig, Bernard Fresson, Laurent Terzieff, Stéphane Audran, Jean-Louis Trintignant. Vous avez dit d'elle, elle m'a accouché une deuxième fois. C'est pas rien, ça.
Oui, parce que je voulais être comédien, mais j'étais tout rentré sur moi-même. Peur de m'exprimer, timide. Ah oui, c'était pénible, mais... Comment est-ce qu'on dit? Oui, enfermé sur moi-même.
Introverti un peu.
Introverti, oui. Je n'osais même pas aller dans un cours tellement je savais rien, quoi. Alors, mais j'ai répondu à une annonce dans le journal. Voulez-vous savoir si vous êtes comédien? Alors, on a passé 2-3 jours à la galerie Charpentier pour faire des lectures de poèmes, jouer une petite scénette, improviser. Le directeur me dit oui, vous avez des dons, mais il faut vous extérioriser parce que tout ça c'est rentré. Alors il faut parler. Il faut... Bon, alors nous avons un cours, si ça vous intéresse. Alors j'ai mordu à l'hameçon. Eh bien, m'en a pris. Oui, il a dit oui, dans notre cours, vous aurez la visite de Jean-Louis Barrault, de Villard, de plein de gens. On n'a jamais vu personne. Et puis le premier jour de l'improvisation, qu'est-ce qu'il nous donne comme thème ? Vous êtes dans un camp de concentration et vous cherchez votre enfant mort.
Oui, pour des débutants, c'est.
Alors, il y a une jeune femme qui était là, qui a commencé à rouler des yeux, comme ça, un peu hagarde, et puis tout d'un coup, elle s'est jetée par terre, elle s'est mise à hurler. C'était pas comme ça, c'était pas comme ça. On donne pas un thème pareil à des débutants, il était malade, le bonhomme. On fait ça au bout d'un an de travail, tout ce qui est mort, prison, folie, tout ça, pas tout de suite, hein. Alors moi, j'ai commencé, je suis rentré à la maison, j'avais le cœur qui battait, je me suis dit, si c'est ça le théâtre, c'est trop fort pour moi. Et la pauvre gosse, elle cherche sans doute qu'il y avait eu dans sa famille quelque chose. Mais c'est presque cruel de faire une chose comme ça. Alors je suis parti. Et puis, comme je me convertissais en même temps, j'ai demandé à mon père spirituel s'il avait une idée. Il m'a dit, allez voir le père Carré, aumônier des artistes, il va sûrement vous donner une bonne adresse. Alors je suis allé, il m'a dit oui, je vous conseille Tania Balachova, qui joue en ce moment le dialogue des Carmélites au théâtre Berthaud, allez la voir jouer, et puis aller à son cours. Alors je suis arrivé dans le studio des Champs-Élysées, là. Ça se passait au bar, parce que la salle était prise pour des répétitions. Et voilà, Tania assise sur ce bar, avec son beau turban, et son beau sourire, voilà, ben, il va assister, puis vous me direz. Et c'est Delphine Ferry qui passait Roméo et Juliette. Alors, je regardais ça, épaté et émerveillé déjà. Pascal de Boisson, Laurent Terzieff, plein de gens fous. Tatiana Moukine, génial. Enfin bon. Et voilà, alors j'ai travaillé 2 ans. Et puis un jour, elle me dit, mais vous passez toujours des choses gentilles, Fédo. Tchekhov à la rigueur, mais je voudrais bien pouvoir vous énerver un peu. Parce qu'on ne sait pas ce que vous êtes. Vous ne ferez pas grand-chose avant 30 ans, parce qu'on ne sait pas si vous êtes anglais, français. Voilà, alors moi, je n'aime pas trop qu'on me dise ça. Et elle me dit, appelez-moi, apprenez-moi le premier acte de Misanthrope, Alceste qui bougonne dans son coin, parce que Célimène l'a envoyé paître. Et puis la visite de Philinte, son ami, qui le voit et qui lui dit « Qu'est-ce donc, avez-vous ? Laissez-moi, je vous prie, mais dites-moi encore, laissez-moi, vous dis-je » Et il le rabrouille, comme ça, il l'envoie paître. Et Tania me dit « Oui, ben, c'est bien gentil, mais il faudrait vous énerver un peu quand même. Vous n'êtes pas content. » Alors, bon, alors deuxième tentative, oui, enfin, pas content. Moi, je pense qu'il est quand même très fâché.
Donc elle vous poussait, elle vous a poussé
oui,
à sortir de vous-même.
Oui, il est remonté, tout doucement. Va. Alors, encore un essai lamentable. Mais il est furieux. Il est furieux, il est vraiment, un peu plus. Ça monte. Moi je commençais à sentir très mal. Pour finir par, il est foudrage. Bon, ça donnait rien. Alors, elle a pris les grands moyens en bon pédagogue qu'elle était. Et elle a fait ce qu'il fallait faire avec les gens comme moi. Si vous ne me montrez pas que vous pouvez être violent, je ne peux pas vous garder dans le cours. Me dire devant ça devant tous les élèves, j'ai senti un refroidissement dans le plexus, la colonne vertébrale en marmelade. J'ai dit, ça y est, c'est foutu, elle va me jeter. Alors, j'ai eu une réaction, alors on recommence, le filin arrive, qu'est-ce donc, avez-vous ? Et il y avait une chaise qui était là, je l'attrape. Je la bandis au-dessus de moi et je la jette en hurlant « Laissez-moi, je vous prie !»« Ah bon ?» me dit-elle. « Ah ben, dites donc !»
Il y en avait dedans, finalement. Mais il suffisait d'ouvrir.
Alors après, au cours suivant, elle me prend à part. Elle me dit « C'est pas pour vous embêter que je fais ça, mais pour vous, vous comprenez, vous êtes, je n'oublierai jamais, vous êtes un représentant en sentiment humain. faut que vous puissiez être de la plus grande douceur, la plus merveilleuse âme, au pire salaud. Elle avait raison, quoi, parce que de hurler, ça m'a... J'en ai eu besoin après pour certains rôles. Elle était bon. Elle savait ce qu'il fallait faire avec moi. C'était la menace. Ça, c'est un bon professeur, je veux dire. Puis après, ça m'a rassuré. Elle m'a dit, oui, c'est pas pour vous embêter. C'est parce qu'il faut y aller. Hein. Il faut qu'on vous entende, vous parler bas. Il faut vous exploser un peu sur ce plateau. Alors voilà. Alors après, j'ai couru les auditions. Il y en avait beaucoup à l'époque. Maintenant, il n'y en a plus. Je faisais tous les théâtres, toutes les maisons de production.
Vous avez une voix bien célèbre, Michael Lonsdale, une voix qui a une place importante dans votre carrière. Démonstration tout de suite en son.
Pour un oui, pour un son.
Lorsque Zarathoustra eut atteint sa 30e année, il quitta sa patrie et le lac de sa patrie et s'en alla dans la montagne. Là, il jouit de son esprit et de sa solitude et ne s'en lassa point durant 10 années.
Homme, animaux à parole. Nous sommes les otages du monde muet.
Merci du bord des mers à celui qui se tourne vers la rive où le deuil, tranquille et noir, séjourne, qui défait de sa tête où le rayon descend la couronne et la jette au spectre de l'absent et qui, dans le triomphe et la rumeur, dédie son drame à l'immobile et pâle tragédie.
Avec de la patience, tu apprendras les sciences, le calcul mathématique et la géographie, la philo, la philosophie, l'étiquette, la héraldique et les derniers rebondissements de la mécanique quantique.
Assimiler pour être civilisé, assimiler, assimiler pour être civilisé.
Il ne t'a choisi, Kyle.
Axis, protège-moi.
On fait des études générales, puis on tire son diplôme au sort. Si tu n'es pas médecin, tu seras autre chose. Architecte, par exemple.
À présent, nous étions sûrs de nous en tirer. Oui, même si elle descendait encore plus au sud, cette grande calotte de glace, serait-ce jusqu'en Afrique. Et quand la bourrasque soufflait du nord, nous empilions tout ce que nous avions de broussailles et de troncs brisés et flambe le bûcher. Il en ronflait et rugissait.
Une ville. Une ville, qu'est-ce que c'est? Est-ce un grand nombre de maisons et un grand nombre de rues? Je ne sais pas. Des maisons vides, non, ne font pas une ville. Mais alors, est-ce que c'est le très grand nombre de gens qui l'habitent? Est-ce que ce sont eux qui font une ville? Les gens et maisons qu'ils habitent et beaucoup d'autres choses encore. Tout cet ensemble, c'est ce qui fait une ville. C'est l'année 1600. 1500 bateaux partent pour la grande pêche avec 12 000 hommes à leur bord. Juin 1940, la France capitule et s'enfonce dans la nuit de l'occupation. Mais un général fait entendre sa voix. Avec lui, une poignée d'hommes et de femmes, partisans de la France libre, refusent de rendre les armes. Parmi eux, Roger Barbereau.
Retrouvez Titeuf au cinéma, en 3D.
Une fois, j'ai eu un souvenir très propre. Je me suis assis sur un muret et j'ai regardé passer un train. C'est tout, c'est mon souvenir.
Regardez! Rends ton plan, va chercher!
Qu'est-ce que c'est que ça?
C'était Lucky Luke, tous à l'ouest, une aventure de Lucky oui, Luke. Lucky. Puis oui, il y a des choses très différentes. Le livre audio Ainsi parlait Zarathoustra, le documentaire Dieu sait quoi. Alexandre D de Victor Hugo, vous avez chanté, on vous a entendu dans Le Château des Singes, le film d'animation, on a entendu Kaena, la prophétie, Les Boulugres, la musique d'Éric Satie, puisque vous jouez le rôle d'Éric Satie dans son musée en France, à Honfleur, très beau musée, la maison Éric Satie, le livre audio Pourquoi j'ai mangé mon père, le film d'animation Une ville, la série pour Arte, Les animaux ont une histoire, le documentaire Les compagnons de l'aube, Un petit morceau de Titeuf, le jardin de Béhamon pour France Culture. Quel lien vous entretenez avec votre voix aujourd'hui, Michael Lonsdal?
Bon, ma voix, c'est ma voix. Hein.
C'est un peu court.
Il n'y a pas de soins particuliers ni d'attention.
Vous y pensez quoi, en tout cas, lorsque vous écoutez?
Ah ben non, je suis content quand je parle juste et que ça veut dire quelque chose, quoi.
Est-ce que vous vous rendez compte que vous avez une voix singulière?
Ben, on me dit ça souvent. Comment tu as fait? J'ai dit, ben j'ai rien fait, moi, c'est naturel, quoi. C'est pas travailler ma voix, non.
Vous êtes un des rares comédiens français à avoir fait une vraie carrière internationale. Vous avez joué entre autres, on a déjà cité plein de metteurs en scène, mais aussi Milos Forman, donc Spielberg bien sûr, James Ivory, Earl Ruiz, Manuel de Oliveira, John Frankenheimer, Dino Risi. Comment est-ce que vous l'expliquez ça?
Eh ben, parce que je parle anglais.
J'étais sûr que vous allez me dire ça.
Et ouais.
Juste parce que vous êtes bilingue.
Ça, c'est formidable. Le jour, on m'a proposé de faire un petit rôle pour Fred Zinnemann dans un film banal intéressant qui s'appelait Behold the Pale Horse. Retenez le cheval pâle. À Gregory Peck, toute une brochette de grandes stars. Et moi, je jouais un petit reporter qui prenait des photos. Mais je sais pas pourquoi on a sympathisé avec Fred Zinnemann. Il m'a dit, ah ben, un jour je reviendrai puis je vous donnerai quelque chose de plus important. Bon, j'ai attendu 14 ans. Bon, je me suis dit, ça y est, c'est fini. Pas du tout. Là, il arrive à Paris pour tourner le Chacal. Grande émotion, je le retrouve. Alors voilà, et voilà, j'ai un rôle pour vous, etc. Lisez le scénario. Je lis. C'est pas intéressant. C'est un officier français qui avait un rôle moyen. Alors j'ai pris mon courage à deux mains, je suis revenu le voir avec le scénario, j'ai dit, Mr. Zinnemann, non, ce que vous me proposez, ça m'intéresse pas. Mais alors oui, il y a quelqu'un qui m'intéresse, c'est l'inspecteur Lebel, c'est qui va poursuivre le chacal. Il me regarde, il me dit, but you're much too young, vous êtes beaucoup trop jeune. Je dis, vous savez, on se vieillit facilement au cinéma, se rajeunir c'est plus compliqué, mais... Il me regarde d'un air un peu perplexe, mais ça, il me dit, mais je vais réfléchir. Bon. Alors j'entre à la maison, j'attends un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, toute une semaine, rien. Bon, je dis, ça y est, c'est râpé. Et coup de fil de mon agent, Zinnemann accepté. Parce qu'il fallait quand même qu'il propose ce jeune comédien français, anglais.
Et, là, c'est
et il m'a dit, vous avez un léger accent français, il faut y remédier. Je vais vous amener à une coach, là, qui va vous remettre l'anglais parfait. Alors, je l'ai vue à Londres, tout ça, je lis avec elle, elle me dit, tiens, votre père était dans l'armée. Je dis, oui, comment vous savez ça? Il y a un certain ton des officiers, qui est très perceptible et très... Et voilà, vous avez, c'est cet anglais-là que votre père vous a appris. J'ai dit, c'était pas dit. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites à Stratford? Ben, j'apprends aux Anglais à parler l'anglais. Ils arrivent avec des accents épouvantables du Lancashire, du Yorkshire. Et pour jouer Shakespeare, il faut de la grâce. Et voilà, alors, ça a été merveilleux parce que jouer avec un monsieur comme ça, c'est intelligent, sensible, demandant toujours, comme ça, dans le coin de l'oreille, could you do this, could you do that? Ça a été vraiment un plaisir inouï.
Tout de suite, on marque une pause, on fait un point sur la circulation.
Infotrafic RTS.
Sur l'axe Lucerne-Casson, on signale des bouchons aux deux portails du tunnel du Gothard. 5 km en direction du Tessin, ce qui correspond à une attente d'environ une heure. 4 km en direction de Lucerne, soit 45 minutes de patience. Et sur l'axe Genève-Aost, un temps d'attente de 3 quarts d'heure est signalé au péage français du tunnel du Mont-Blanc en direction de l'Italie.
On va vous entendre durant la prochaine pause musicale, Michael Lonsdal. On va écouter votre voix accompagner les mots et la musique de Thierry Robin. Vous avez enregistré avec lui.
Titi Robin?
Oui, l'album L'ombre.
Titi!
Titi Robin. L'ombre d'une source, c'était en 2014.
Oui, c'est un poème d'amour que j'ai le plaisir de lire pendant que lui joue de ses instruments. Il a 5 ou 6.
Instruments à cordes?
Oui.
On va écouter le titre Amande.
Ah oui, j'ai croqué ensemble 3 amandes. L'une d'entre elles était ta mère. Ma vie, j'ai pensé à toi. J'ai pensé à nous deux. Les deux autres étaient pourtant douces, parfumées, comme silencieuses.
At least I shall have the pleasure of putting you out of my misery. Desolated Mr. Paul.
Heartbroken, Mr. Drax.
Aha, James Bond. May, ladies and gentlemen, this is Mr. Bond. My name is Dr. Drax.
Pour un oui, pour un son.
Michael Lonsdale, vous avez joué dans beaucoup de films d'auteurs, des films parfois intimistes, et puis un film vu par 450 millions de spectateurs, c'était Moonraker. Vous êtes le méchant dans James Bond. C'était quoi le plus enthousiasmant dans ce film? C'était justement de faire un méchant, le cachet qu'on imagine généreux, ou d'être vu par autant de spectateurs?
Oui, parce que pour moi c'était comme un rêve d'enfant, jouer le grand méchant loup. Personnage odieux, je veux dire, un fou, et jouer en anglais. Alors j'ai accepté ça volontiers, et ça m'a beaucoup amusé, parce que c'était les à côté du film qui étaient très drôles. Il y avait le géant qui mesurait 2,30 m, qui ne parlait pas un mot de français.
Qui était prof de sport, je crois, non, qui n'était pas était, comédien, non?
Il était professeur de mathématiques.
Mathématiques, pardon.
Dans la rue, on l'a remarqué pour sa taille et on lui a proposé de tourner. Et là, il a fait une douzaine de films qui lui ont rapporté à peu près 20 ans de son cachet, de son salaire. Il vient de mourir. Il est tombé, il s'est cassé les jambes. Oui, alors le jour où sa femme était enceinte, une petite bonne femme comme ça, mignonne. Et alors, il arrive au studio. Vous savez, une main à lui, c'est deux mains à moi. Donc, deux mains de lui, c'est un berceau. Alors, la tête de ce géant qui amène ce bout de chou, qui regarde avec une espèce d'émotion épatée et ravie. Ah, ça valait le coup.
Est-ce que c'est vrai que vous avez refusé de rentrer à la Comédie Française?
Oui, parce que je connaissais beaucoup de comédiens de là-bas, et ils me racontaient les histoires de jalousie, de façon de jeter les comédiens à la rue quand ils en avaient assez. Enfin, il y avait, je crois, des groupes extrêmement forts et
ça vous a pas fait rêver?
Non, enfin, parce que j'ai dit. Rejouer Alceste ou ça a été tellement bien fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la découverte du monde moderne. Les gens comme Beckett, oui, comme Adamov, comme Ionesco, Oui, là, il y a de l'aventure, de la surprise, quelque chose qui n'avait jamais été fait, et avec Duras, pareil. C'était formidable de créer quelque chose qui n'avait jamais été fait. Je crois que j'étais plus excité par ça que d'être à la Comédie Française.
Est-ce que vous peignez toujours? Je sais que la peinture est une passion.
Non, cette année, je n'ai pas pu peindre.
Mais l'envie est toujours là.
Oui, oui, oui. De temps en temps, je regarde, là, je dis, tiens, ce tableau-là, il n'est pas fini.
Donc, il vous reste encore beaucoup de choses à faire,
oh oui,
on dirait.
Oh oui.
On va écouter tout de suite, en rapport avec votre nouveau livre chez Philippe Rey, qui s'appelle « Mes chemins d'espérance », qui regroupe des textes. On va retrouver tout de suite quelques-uns des auteurs qui figurent avec ce montage d'Alexandre Lemierre.
La foi que j'aime le mieux, dit Dieu, c'est l'espérance. La foi, ça ne m'étonne pas. Ça n'est pas étonnant. J'éclate tellement dans ma création. Mais l'espérance, dit Dieu, voilà ce qui m'étonne. Ça, c'est étonnant que ces pauvres enfants voient comment tout ça se passe et qu'ils croient que demain, ça ira mieux.
Soyez des citoyens debout et libres. Soyez des hommes et des femmes de devoir et de droit. C'est simple. Hein? Respectez les autres.
Dès mon entrée au lycée Louis le Grand, j'avais perdu la foi, qui me semblait inconciliable avec la pluralité des mondes. La lecture de la vie de Jésus de Renan fournit de nouveaux prétextes à ce changement de conviction que tout d'ailleurs autour de moi facilitait ou encourageait.
Michel-Ange, le nom sonne comme une formule magique. Peu d'artistes ont laissé à la postérité un héritage aussi impressionnant. Comment un même homme a-t-il pu réaliser l'une des sculptures les plus célèbres de l'histoire de l'art, ainsi que les fabuleuses fresques de la chapelle Sixtine?
Rien n'est beau comme un enfant qui s'endort en faisant sa prière, dit Dieu. Je vous le dis, rien n'est aussi beau dans le monde. Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau dans le monde, et pourtant, j'en ai vu des beautés dans le monde et je m'y connais. Ma création regorge de beauté, ma création regorge de merveilles. Il y en a tant qu'on ne sait pas où les mettre.
La fede per aiutare gli altri.
La foi pour aider les autres, pour s'approcher de Dieu. Cette foi qui fait des miracles.
Che fa miracoli.
Léon Tolstoï, d'où vient le mal? Ce n'est ni de la faim, ni l'amour, ni de la méchanceté, ni de la peur que viennent tous nos malheurs. C'est de notre propre nature que vient le mal. Car c'est elle qui engendre et la faim, et l'amour, et la méchanceté, et la peur.
Oui, on est
une goutte d'eau dans l'océan, mais nous agissons avec Jésus, pour Jésus. Nous dirigeons notre action vers Jésus, et c'est là que prend toute sa signification. Les missionnaires de la charité ont consacré entièrement leur vie à Dieu pour accorder leur service aux plus pauvres dans le monde entier, quelle que soit leur race, leur religion, leur nationalité ou l'endroit où ils vivent.
C'est faiseur de paix, hein. Allez.
Martin Luther King. Ouais. Leurs mots figurent dans votre livre « Mes chemins d'espérance ». On a écouté Charles Péguy avec « L'espérance », Luther King à l'instant, le père Gilbert, la voix de Paul Claudel, évocation de Michel-Ange, le pape François Tolstoï et Mère Teresa.
Oui.
C'est à 22 ans que vous demandez à être baptisé dans la foi catholique, Michael Lonsdal.
Yes.
Yes, sir. De vous-même. Vous aviez déjà la foi?
Ça me travaillait tout doucement comme ça, par petites touches délicates. n'y a pas eu de grande explosion tout d'un coup.
Pas d'appel.
Non. C'était toujours une chose douce, calme, et avec des résonances surprenantes. Un jour, j'étais avec les adventistes. Une dame m'avait demandé de venir, alors j'ai assisté à l'office. Et puis j'ai pris la parole une fois pour dire je ne sais pas quoi. Je ne me souviens absolument pas. Et cette dame, après, m'a raccompagné à la maison et elle a dit à ma mère, vous savez, votre gosse, là, il a dit quelque chose pour son âge, aucun souvenir.
C'était profond.
Oui, alors après, on a habité dans un appartement, on louait des chambres chez un monsieur Moitessier, qui était le neveu de la dame que Charles de Foucault avait aimée. Oui, il était aviateur et il louait des chambres dans son appartement. Un jour, on discutait dans le corridor et puis il y avait toutes sortes de petites statuettes un peu sulpiciennes, quoi. Thérèse de Lisieux et François avec les oiseaux. Et puis en parlant comme ça, il regarde puis il me dit « Oh là là, qu'est-ce que c'est vilain tout ça ?» Je crois que je vais le donner, je le mets dans une boîte puis je le donne à la paroisse. Oh, j'ai dit « Non, hey, dis donc, tu peux pas faire ça. Hein. » Et pourquoi c'est à moi? Ah non, j'ai dit c'est sacré. Je ne savais pas ce que ça voulait dire.
Mais vous le saviez.
Quelque chose en moi. J'ai dit c'est sacré. Ah, ça l'a fait rire. Il m'a dit, si tu les veux, je te les donne. Et comment? Je me suis fait ce qu'on appelle aujourd'hui un petit coin prié. Ah, j'étais content de ma Thérèse. Ah oui, il ne fallait pas y toucher.
Il y a eu des signes comme ça donc, dans votre
vie. Des petites approches extrêmement délicates.
Et puis parfois moins délicates, en tout cas plus directes, plus frontales. L'habit ne fait pas le moine, et pourtant au cinéma, vous avez endossé souvent ce costume-là.
Mais
pasteur
oui,
pour Orson Welles, dans Le Procès, prêtre SM, on le disait, dans Le Fantôme de la Liberté de Buñuel, un cardinal dans Galiléo, de Lozay, un abbé despotique dans Le Nom de la Rose, de Jean-Jacques Hano. Même dans une comédie, Ma vie est un enfer, vous faisiez l'archange Gabriel, c'était Josiane Balasco. Et puis bien sûr, jusqu'au frère Luc dans Des hommes et des dieux. C'est un hasard ou c'est vous qui...
Non, ça a commencé...
Qui avait inspiré ainsi le metteur
en scène. Le premier spectacle que j'ai joué à Paris, c'était pour des dentistes. Et je jouais le pasteur dans Il importe d'être constant. Je m'en souvenais plus d'ailleurs, j'ai retrouvé une photo l'autre jour.
Et ça vous plaisait particulièrement du coup?
Non, oui, un personnage comme un autre, enfin.
Juste comme un autre.
Et puis après, c'est avec Louis Malle, oui, là c'était un peu plus équivoque. Et puis ensuite, oui, ça... Sans doute que j'avais la gueule à ça, je ne sais pas.
L'esprit peut-être aussi un peu.
Ben, je ne sais pas, oui. Et puis je suis tombé en extase devant les Dominicains, oui. Et j'ai été voir un Dominicain, là, que j'avais entendu parler à l'atelier d'art sacré, la place Fustenberg, et qui a parlé de la foi et de l'art, et ça m'a plu. Il a dit l'importance de l'art et la beauté que ça comporte, qui est un don de Dieu. Enfin bon. Alors j'ai été le voir, après j'ai dit, monsieur, j'aimerais vous parler. Ah non, mon petit, je peux pas, je suis rendez-vous, appelle-moi au couvent Saint-Jacques, et puis tu viendras me voir. Alors j'ai pris rendez-vous avec ce Dominicain, qui m'a dit au bout de 20 minutes, alors qu'est-ce que tu cherches? Je dis, je sais pas, je voudrais... Quelque chose, je cite des mots comme ça, très clichés, beaux, purs. Et puis au bout de 20 minutes, il me dit, c'est Dieu que tu cherches, tout bête. Ah bon? Mais oui. Et alors, donc, il m'a converti, il m'a baptisé au bout de 6 mois. Et alors là, chez les Dominicains, c'était le père Chenu, le père Congard, des sommités de la spiritualité. Maurice Zindel qui venait, oui.
Michael Lonsdale, on va se retrouver dans un instant, ensemble dans Point Oui, Point Son jusqu'à 15h. Et on va écouter tout de suite une chanteuse suédoise, c'est Fredrika Stahl avec Tomorrow. C'est un extrait de la BO du film du même nom de Mélanie Laurent, le film Demain. It's always so hard to see how things could turn out differently, but we're in a mess now. I feel it, we're facing a wall. Fight it out, wipe out the wrong. Fight for us, we must go on. The whole world is on hold now. I feel it, we're facing a storm. See the final show now.
place where we can build a home. Fight it out, lose or win. Can't let go, won't give in. The whole world is on hold now. We'll do anything to survive. See the final show now.
Oui, pour un son.
Oui, 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 pour un son.
Oui, c'est Michael Lonsdal pour un oui, pour un son.
Votre livre s'appelle « Mes chemins d'espérance », Michael Lonsdal. Vous y écrivez à un moment « Je n'ai pas peur de la mort, cette étape est tout à fait naturelle ». Puis après, Vous parlez du paradis, de l'enfer. Vous y pensez parfois à l'après ?
Oh, de temps en temps, puis on me pose souvent la question. Alors je dis « Non, je suis tranquille. Oui, j'aimerais bien mourir tranquillement. Mais il faut pas penser à ça, il faut penser au présent. Il y a trop de choses à faire pour qu'on se lamente sur son sort. »
Vous écrivez aussi, on a fait ce qu'on a pu dans sa vie, on a eu plus ou moins de chance, l'important c'est de s'aimer plus que de se juger. Vous pensez que vous avez eu de la chance dans votre vie ?
Oh oui, énormément. Oui, je crois que j'avais une capacité quand même à pouvoir jouer la comédie. Et le rêve, vous savez, pour moi c'est le jeu. J'étais un enfant qui ne savait que jouer et je ne faisais que ça bien. Les études, c'était nul. J'étais zéro en mathématiques, j'étais zéro en tout.
Et l'important, c'est de s'aimer. Vous vous aimez aujourd'hui ?
Oh non, il ne faut pas s'aduler et se regarder dans le miroir avec satisfaction. Non, 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 non. J'aime celui qui est en moi, oui. C'est le Christ qui est là, tout le temps. Ça, c'est le plus grand des cadeaux.
Merci beaucoup pour cet entretien, Michael Lonsdal.
You are welcome.
Trois questions que l'on pose pour terminer cette émission à chacun de nos invités. Quel est votre son préféré ?
Mon son ? C'est la musique, le son.
À quelle question répondez-vous toujours oui ?
Oh ! Êtes-vous content ?
Et à quelle question aimeriez-vous que l'on vous réponde toujours oui ?
Je voudrais avoir une bonne mine, quoi. Pas être écrasé par les événements qui nous menacent. Oui, il va falloir se ressaisir et résolument défendre ce qui est notre liberté qu'on essaie de détruire, oui. Il y a de quoi désespérer, hein. Mais il faut pas. Il faut tenir bon et prier beaucoup. Je crois beaucoup à la prière. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. À la moindre occasion, allez, prière, prière, prière.
Merci beaucoup.
C'est moi.
Merci d'avoir écouté Pour un oui, pour un son. À la réalisation et au montage sonore, c'était Alexandre Lemire et c'est François Piton qui a choisi les morceaux, la musique que vous avez entendue durant l'émission. Très bon week-end à l'écoute des programmes de la première. On se retrouve samedi prochain à partir de 14h. Nous serons avec le comédien Didier Benureau.